Bonjour, vendredi 7 juillet, dernière journée de la semaine, une semaine qui se termine également sous la chaleur. Et selon les dernières statistiques météo, apparemment que le monde a connu son mois de juin le plus chaud jamais enregistré. En tout cas, jusqu'à présent, c'est tout un été. On verra la suite. Mais on sait que dimanche, bonne nouvelle, ce sera un petit peu plus confortable. Cela dit, une deuxième semaine de M l'été, on va compléter ça en beauté. On va parler musique, cinéma et on va penser à notre avenir. Et oui, la meilleure façon d'envisager notre vieillesse. Encore une fois, je vous convie à de belles rencontres au cours de la prochaine heure. Notre rendez-vous quotidien qui, pour ma part, me fait chaud au cœur. Bienvenue à Aime l'été. Et aujourd'hui à l'émission, plus précisément, on rencontre le réalisateur Helgi Pechinen qui a réalisé le documentaire Amour et différence dont on a parlé plus tôt cette semaine en compagnie de notre chroniqueuse Élisane Pellerin qui fait partie elle-même de ce documentaire. On aura cette fois le point de vue du réalisateur qui s'intéresse principalement au documentaire social. Aussi, notre chroniqueuse Josée Blondin va discuter avec un brin d'humour de la façon d'éviter la dépression lorsqu'on vieillit. Mais d'abord, un chroniqueur jazz qui a peut-être quitté le journalisme, mais qui n'a jamais quitté la musique. Je reçois dans un instant Serge Truffaut pour parler de son livre « Mémoire jazz ». Voici donc le menu de « Aime l'été » pour la prochaine heure. Et j'ai le plaisir, le grand plaisir d'accueillir ce midi ce grand chroniqueur jazz, voyons, qui a été au journal Le Devoir pendant une trentaine d'années, mais à ne pas oublier qu'il a été aussi journaliste économique et éditorialiste, toujours au journal Le Devoir. Bonjour Serge Truffaut.
Bonjour.
Ah, bien évidemment, longue expérience. Bien sûr, ça ne fait pas de vous quelqu'un de très avancé en âge pour autant, mais c'est aussi l'époque où on commençait bien jeune, n'est-ce pas, Serge?
Excusez-moi de vous interrompre, j'ai retenu que vous invitez quelqu'un qui va nous parler des recettes pour éviter la dépression en vieillissant, je crois.
Oui!
C'est ça?
Oui.
Je la retiens, celle-là.
C'est bon, ben oui, mais effectivement, ben c'est un sujet qui est important quand même. Hein. Il faut bien vieillir, en effet. Et bon, comme on dit, vous avez quitté le journalisme il y a quand même quelques années, mais pas la musique. Hein. Elle vous habite tout autant, Serge Truffaut.
Oui, effectivement. En fait, j'ai quitté Le Devoir, si vous voulez, mais je n'ai pas pris ma retraite. J'ai écrit deux livres, un sur le blues, un sur le jazz. Et là, on a confectionné avec le camarade Paul Cochon du Devoir. Ces mémoires de jazz. Et parallèlement à cela, bien, je continue mon travail, si vous voulez, de journaliste international.
Mais oui, parce que...
Des livres sur Donald Trump, l'ami Donald Trump.
Ah ben oui, parce que vous vous intéressez toujours quand même à d'autres sujets, comme la politique
oui.
Et tout. Bien sûr, vous suivez ça de près. Et vous avez votre livre, d'abord, sur le blues, « Les nomades du blues hein, », on va le nommer. Alors, c'est un recueil de textes qui nous plongeait dans cette musique qui était en quelque sorte un miroir de la société américaine, de toute façon.
Exactement. Et d'ailleurs, c'est, quand vous parlez de miroir de la société américaine, j'avais pris soin de ne pas consacrer la plupart des sujets de ce livre au blues dit de Chicago. Évidemment, ça reste la capitale du blues de Chicago.
Mm-hmm.
Mais j'avais insisté pour que l'on parle, par exemple, de Los Angeles, de l'Oklahoma, de l'Arkansas, c'est d'autres lieux. J'ai voulu faire un livre ayant une tonalité géographique pour qu'il soit justement le reflet de l'ensemble des États-Unis, non pas cantonner le blues juste à Chicago, si vous voulez. Voilà.
C'est ça. Et évidemment, bon, le blues, hein, des musiques qui sont liées à travers l'histoire, à la condition de vie des Noirs et tout. Mais alors, c'est vraiment... C'est vraiment un livre fort intéressant. Mais là, ben, évidemment, avec celui-ci, Mémoire jazz, ben, c'est tout autant intéressant. Bon, c'est en fait 80 chroniques que vous avez réunies, des chroniques que vous avez qui ont été écrites dans Le Devoir à l'époque où vous étiez chroniqueur.
Oui, exactement, oui.
Alors, vous l'avez divisé. Ben, j'imagine que ça n'a pas été facile hein, de faire le choix, de faire le tri. J'imagine que, est-ce que quand vous relisez vos chroniques, est-ce que vous êtes toujours d'accord avec vous
aujourd'hui? Pas toujours, mais pas, t- toujours, mais ce que cet exercice m'a permis de constater, c'est quelque chose que je trouve de triste, figurez-vous, c'est qu'il a été très difficile, en fait, ça n'a pas été possible d'avoir en archive tous les textes qui avaient été écrits sur le jazz. Alors, c'est comme, si vous voulez, le choix des chroniques a été fait, excusez-moi d'être ennuyé parce que je suis méthodologique, mais le choix des chroniques a été fait en fonction des textes qui étaient, si j'ose dire, disponibles.
Ah, d'accord.
Voilà, bon, je ne suis pas bibliothéconomiste, là, je ne peux pas rentrer dans les labyrinthes.
Oui, non, je comprends.
Je connais pas. Mais ça a été ça a été triste, je trouve.
C'est ça, parce que vous n'avez pas tenu, vous n'avez pas tenu un registre vous-même de toutes vos, chroniques. Et parce que vous dites vous-même, on écrit des articles, bon, on les oublie le lendemain et puis on passe à autre chose. Mais c'est un peu ça, le rôle de chroniqueur, hein.
Exactement. On oublie ça, les éditos que j'ai écrits, je ne sais pas moi, sur le conflit, par exemple, israélo-palestinien, on en a écrit tellement qu'on en a oublié les trois quarts, si j'ose dire.
Voilà. Non, c'est ça. Donc, alors, vous avez, tant bien que mal, réuni ces chroniques par thème. Hein? Alors, donc, différents chapitres. Par exemple, Big Band du jazz. Enfin, évidemment, ça, c'est des musiciens très connus. Vous faites aussi... vous parlez évidemment du jazz d'ici, bien entendu. Hein. On sait que Vancouver, quand même, vous dites que Vancouver a été la capitale du jazz canadien.
Oui, elle l'était et elle le demeure. Hein.
D'accord.
Vraiment, là, ce qui se passe à Vancouver, c'est absolument extraordinaire comparativement à ce qui se passe ici. Ben, à part le festival, mais ça, c'est autre chose, si j'ose dire. Mais Vancouver, c'est incroyable le travail qui est fait par un musicien qui est également producteur, Corey Witt, le saxophoniste, c'est magistral ce qui se fait là.
Ça veut dire que, bon, si vous parlez de ce qui se fait encore, ça veut dire que le jazz n'est pas mort, en ce sens que, bon, vous avez quand même, vous parlez de que vous avez une certaine idée du jazz. Quelle est cette idée? Comment vous voyez le jazz?
Ben moi, d'abord, je colle à, si j'ose dire, l'espèce de cocktail ou d'alchimie qui est à l'origine du jazz, qui est le gospel et le blues.
Mm-hmm.
Je ne peux pas... J'ai toujours voulu garder cette ligne, si j'ose dire. Par exemple, je sais que d'autres chroniqueurs vont parler beaucoup plus que moi, par exemple, de jazz européen, du jazz ECM, bon, par exemple.
Que vous trouvez un peu trop intellectuel.
Exactement.
Moins viscéral. Moins organique, si on veut.
Exactement, c'est beaucoup moins organique et à la limite, ça c'est-à-dire que le jazz qui est produit par des étiquettes aujourd'hui comme celle de Vancouver dont on parlait, Stellar Light, Smoke Session, iNote, etc., si vous voulez, ça me suffit, c'est ça le jazz, c'est eux qui font ce jazz-là. Le jazz, c'est bête à dire, mais il est né aux États-Unis, il a grandi aux États-Unis, en Amérique du Nord. C'est pas comme je dis tout souvent, sur les bords de la Tamise, de la Seine.
Non, c'est dans les eaux boueuses du Mississippi, plutôt, comme vous le dites.
Oui, et des abattoirs de Chicago aussi, comme je dis. Mais si vous voulez, c'est que... Je ne veux pas être ennuyé, mais je vais vous parler de la formation des pianistes de jazz, des grands pianistes de jazz, mm-hmm. dont d'ailleurs Oscar Peterson.
Bon. Oui,
Oscar
ça vous en parlez abondamment dans votre livre.
Ouais. Oui, il a été formé, éduqué par sa sœur, Daisy.
Tout à fait.
Cette femme avait ceci de particulier, elle était très religieuse.
Mm-hmm.
Et elle lui a fait exercer les chants sacrés du gospel pendant des 5 à 6, 7, 8 heures par jour. Alors vous avez Oscar Peterson d'un côté, et de l'autre côté... Vous avez des pianistes comme Bill Evans, qui eux ont été formés à ce qu'on appelle l'école russe du piano. Et il y a, si j'ose dire, il y a une espèce d'océan entre les deux. C'est-à-dire que l'école russe du piano n'a plus rien à voir avec le Mississippi, le gospel et le
blues. Non, c'est vrai, c'est vrai.
Voilà, c'est ça qui m'agace souvent d'ailleurs.
D'accord.
Quand on parle de... L'école russe du piano, là, ça me...
C'est pas tout à fait comme vous voyez le jazz, finalement. Mais bon, alors c'est ça, c'est vraiment... c'est ça, donc vous trouvez que ce jazz-là ne correspond peut-être pas, aux véritables origines du jazz. D'ailleurs, le jazz, on s'entend pas nécessairement d'où vient le mot. D'ailleurs, on l'écrivait à une certaine époque avec deux S.
Voilà. Alors, si les deux S ont été enlevés pour être remplacés par deux Z...
Oui.
C'est parce que le jazz avec deux S, à l'origine, ce mot faisait était pour ainsi dire une partie intégrante de l'expression à caractère sexuel, qui était jazz moi bleu. C'était d'ailleurs en français jazz moi bleu.
Ah bon?
Et oui,
C'était une
c'était
expression,
comme ça.
quoi?
Voilà, c'est ça, c'était une expression. En fait, l'origine du mot jazz est plus que probablement française ou francophone, si j'ose
Ah,
dire créole,
d'accord.
on va
D'ailleurs,
dire créole.
les Duke Ellington, Miles Davis, détestaient apparemment ce mot-là.
Oui, effectivement. Effectivement, même si un directeur de théâtre à Broadway, c'est lui qui avait décidé d'enlever les deux S, il y avait un spectacle de jazz de Nouvelle-Orléans, on va dire, il avait décidé de supprimer les deux S pour les remplacer par les deux Z. Et parce qu'à cause de cette connotation sexuelle.
Ah bon.
Et c'est ça qui fait que, bon, pour notamment pour Duke Ellington, il détestait ce mot, à cause de cela, justement.
Ah bon, dis donc, alors voilà, vraiment, vous nous apprenez quelque chose là-dedans parce que on n'avait jamais vu ça comme ça, c'est
Oui,
sûr.
oui. Mais vous
Alors.
savez, on oublie qu'aux côtés de Louis Armstrong, il y avait des grands musiciens qui s'appelaient Papa Célestin, Alphonse Picou et par exemple Ferdinand Lamante,
OK,
qui avant
oui.
d'être Jelly Roll Morton, avant de s'appeler Jelly Roll Morton, son vrai nom, son nom de naissance, c'était Ferdinand Lamante.
Ah, bon, d'accord. Alors, les origines, bon, c'est ça trahit différentes origines, au fond.
Oui.
Tout à fait. Bon, vous trouvez, Serge Truffaut, que, bon, le jazz, ben, évidemment, n'a plus une couverture, en fait, souhaitée, que vous souhaiteriez qu'on ait encore, parce qu'en fait, et vous déplorez un petit peu le fait que, bon, les chroniqueurs d'aujourd'hui parlent de jazz une journée, mais vont parler aussi bien de hip-hop le lendemain et le surlendemain de musique du monde. Mais enfin, vous vous êtes cantonné dans le jazz et vous étiez bien ainsi.
Oui, mais pour moi, ça relevait aussi. Je vais être méchant parce que ce que vous venez de dire m'a valu une volée de bois vert de certains anciens collègues. C'est que pour moi, c'était une question d'honnêteté avec un très grand H. Pendant les 32 ans au cours desquels j'ai écrit sur le jazz, j'ai été fréquemment, pour ne pas dire chaque semaine, vous connaissez le métier, des attachés de presse m'appelaient pour parler de tel musicien ou telle musique,
Bien sûr.
etc. Et je n'ai pas cessé de dire que je ne connais rien en musique brésilienne. Je connais rien. À un moment donné, on dit que le hip-hop a eu de l'influence sur le jazz. Je connais rien au hip-hop. C'est une question, pour moi, ça relève de l'honnêteté. Je connais le jazz et j'écris sur le jazz, mais ne me demandez pas d'écrire sur, par exemple, sur les musiques improvisées. Combien de fois on m'a appelé pour me dire, ah, il y a ceci, il y a cela, mais je connais rien là-dedans. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas.
Non, je comprends.
C'est aussi bête que ça, en
Alors,
fait.
vous aviez toujours cette rigueur, mais enfin, on vous connaît pour cette rigueur, bien sûr. Et votre livre, finalement, oui, quoique érudit, en fait, ça nous permet je pense, de revisiter ces musiciens-là. Peut-être certains qu'on a moins bien connus, mais qu'on peut redécouvrir très facilement. Vous nous faites des suggestions aussi pour aller entendre ces musiciens. C'est assez complet parce que on retrouve aussi finalement un chapitre consacré, bien entendu, au Festival international de jazz de
Oui,
Montréal.
oui, oui, oui.
Est-ce que vous vous ennuyez d'une certaine époque du festival de jazz? Est-ce que vous
Ah
considérez qu'il
oui,
y a
tout
une
à
belle
fait, tout à
suite?
fait. Ah oui, tout à fait. Je m'ennuie beaucoup de l'époque quand c'est André Ménard qui a été un programmateur, un excellent programmateur.
Évidemment.
Mais là, on rentre dans quelque chose d'un peu compliqué. Là, j'espère ne pas être ennuyeux. Ça, c'est mon côté ancien journaliste de l'économie. C'est que
Allez-y.
là, je crois, là, je vous le dis, c'est une espèce d'hypothèse logique, strictement et bêtement économique, mais la marge de manœuvre des programmateurs du Festival de jazz de Montréal, de La Haye, de Montreux et des gros festivals d'Europe, elle a été, pour ainsi dire, leur marge de manœuvre a été réduite.
OK.
Par quoi? Par les fusions, acquisitions, changements de propriété de grandes maisons de disques et de médias.
Ouais, c'est vrai
Alors,
que ça a pu compliquer les choses, évidemment.
voilà, ça a énormément compliqué les choses. Et aujourd'hui, ces festivals, parce que ce n'est pas seulement le cas de Montréal, devraient s'appeler en fait des festivals de musique. Je n'ai rien contre, hein, soit dit en passant, je suis pas un croisé, je ne suis pas corporatiste. Mais quand on dit festival de jazz, ce n'est plus la vérité, ce n'est plus la réalité, devrais-je dire. C'est le festival des musiques.
Je comprends.
Toutes celles que vous voulez, puis
ouais.
bon
ben c'est ça, et c'est, ça. C'est une espèce d'évolution voilà. qui se traduit partout de toute façon, mais enfin, il y a peu de femmes dans votre livre quand même.
Oui, il y en a très peu.
Mais c'est contextuel, c'est-à-dire c'est vraiment lié au fait que vos chroniques qui étaient disponibles finalement parlaient peu de femmes, mais est-ce qu'il y en avait autant aussi à l'époque? Bon, reste à voir.
Non, ben c'est ça. C'est que le problème qu'il y a, je ne veux pas répondre à côté, mais dans le livre que j'ai consacré au portrait des musiciens de jazz, j'ai écrit tout un texte sur Marie-Lou Williams,
ouais.
pianiste, auteur, compositeur et arrangeuse, pour dire quelle est la musicienne de jazz la plus sous-estimée dans l'histoire du jazz.
Mm-hmm.
Le problème, c'est que quand moi j'ai écrit mes chroniques de jazz, Sarah Vaughan, que je pense qu'elle venait de décéder, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, Billie Holiday en tant qu'elle était décédée, etc. C'est-à-dire que, je me souviens plus laquelle. En tout cas, et on m'a parlé, par exemple, récemment, on m'a parlé de Nina Simone.
Oui, oui.
J'aurais aimé écrire sur Nina Simone. Mais comme j'ai dit aux jeunes qui m'interrogeaient là-dessus, j'ai dit, écoutez, c'est parce que les 20 dernières années de sa vie, Nina Simone, elle les a passées entre des hôpitaux psychiatriques et sa maison, elle ne faisait plus rien.
Ouais, ouais.
C'est par défaut, si j'ose dire, c'est bête. Hein,
enfin, il y a plein de choses dont on parle, bien sûr, les musiciens d'ici. Là. Je pense aussi à, on va devoir se quitter, Serge Truffaut, oui. cela dit, mais on parle de Jean de Rome, là, justement, je notais oui. ça. Aussi, une institution qui a été le Upstairs, alors... Vraiment, ce bar qui présente toujours du jazz à Montréal, vraiment, qui survit là-dedans. Et puis, c'est vraiment extraordinaire que ce soit encore là. Vraiment une institution. Alors, merci, Serge Truffaut, cela dit. Alors, c'est vraiment, ça nous donne le goût d'aller plus loin. Et puis, relire ces textes, c'est vraiment un bel exercice de mémoire. C'est fantastique.
Merci.
Merci infiniment, Serge Truffaut. Mémoire de jazz. Et on va écouter en terminant Dexter Gordon. Au revoir.
Au revoir. Thank you.
On vient d'écouter Dexter Gordon, qui paraît dans le livre, je pense, de Monsieur Truffaut. C'était la pièce Blue Bossa.
Et oui, Mémoire Jazz, il y a le Festival international de jazz qui se poursuit à Montréal, bien sûr, jusqu'à demain. Alors, on en profite pleinement. Cela dit, on va parler avec Josée Blondin cette fois, notre chroniqueuse qui nous revient aujourd'hui. Bonjour, Josée.
Bonjour, Chantal.
Alors, Josée, psychologue au service des aînés, chroniqueur, fondatrice de Transfert 360, encore une fois. Alors, on peut rappeler encore ce que c'est, Transfert 360?
Bien sûr, Transfert 360, on est spécialisé au niveau des transitions de vie, donc la préparation à la retraite, et on va seconder les dirigeants d'entreprise dans leur continuité, donc autant dans leur identité de lâcher prise que autant aussi pour le positionnement des repreneurs.
Ouais. Donc, bon, pour la suite des choses, alors finalement, c'est ça, vous nous accompagnez là-dedans quand on décide de peut-être quitter notre travail et tout, mais il y a une suite, hein, évidemment, ça ne s'arrête pas toujours là, bien sûr. Exact. Alors, d'abord, Josée, est-ce que vous êtes à l'aise avec le mot « aîné » ? Je vous pose la question spontanément, là, parce que je me disais, bon, on parle beaucoup des aînés, je sais que ça a un petit peu énervé certaines personnes pendant la pandémie.
Mais je pense qu'en fait, aîné est un qualificatif finalement qui traduit juste une personne qui est avancée en âge et voire même, on disait aussi à un moment donné, des personnes expérimentées.
Ouais. Donc, enfin, au fond, quelle que soit la façon qu'on appelle les gens d'un certain âge, hein, ça, peut-être que ça va énerver de toute façon. Est-ce que ce serait mieux de dire les personnes plus âgées? Mais enfin, c'est encore là. Tu sais, c'est vrai que c'est un mot un peu fourre-tout, un mot passe-partout. Mais enfin, je voulais juste, je vous prends peut-être par surprise, temps, là, mais bon.
Mais en même temps, j'ai le goût de vous dire, moi, j'ai un adolescent et qui, le mot ado, ça lui tape ses nerfs aussi.
Bon, OK.
Plus,
oui, oui,
adulte,
je comprends. Bon.
Donc, aussi à quoi on s'identifie finalement.
Ben oui, je sais. On y va avec une pointe d'humour ce matin un petit peu parce que votre titre de chronique aujourd'hui, les meilleurs moyens pour devenir dépressif. Mais en fait, on va comprendre que vous allez nous suggérer des choses pour que ce soit tout le contraire, quoi.
Exactement. Ben Chantal, et pour les auditeurs aussi, vous avez vite compris que ce sont des moyens que je vais vous donner, ce sont des moyens à éviter quand on vieillit ou quand on veut vieillir épanoui finalement.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, bon, vous allez vous nous avez élaboré quand même 5 moyens, les 5 meilleurs moyens finalement, parce qu'il y en a sans doute bien d'autres, les 5 meilleurs moyens pour devenir dépressif, en tout cas. C'est ce qu'il faut éviter de faire, en tout cas. Alors, c'est ça. Donc, on va avoir des pistes. Alors, on commence par peut-être, une première chose à ne pas faire.
Exact. Et ça, il faut rappeler, c'est tiré d'une de mes conférences que je donne sur la préparation à la retraite. Et quand je commence, je dis, tu sais, si on veut vieillir épanoui, on va tout de suite les regarder, les moyens pour devenir dépressif. Après ça, on va les mettre de côté aussi. Et tu sais, un des premiers moyens, c'est identifiez-vous à des modèles inaccessibles. Par exemple, pour ma part, si j'aspirais à avoir la retraite de Céline Dion, c'est inaccessible pour moi financièrement et d'autant que je n'ai pas son talent et vous ne voulez surtout pas m'entendre chanter, Chantal, c'est sûr.
Non, je comprends. Donc, il faut avoir des attentes réalistes.
Exactement. Donc, selon notre condition financière, selon aussi notre santé, il faut justement être réaliste avec, mais qu'est-ce qui m'interpelle moi aussi?
C'est ça. Exemple, j'ai toujours aimé, bien sûr, voyager, comme bien des gens, c'est un peu normal. Bon, par contre, on se dit, mais le jour où on ne peut plus voyager autant, là, pour toutes sortes de raisons, que ça peut être des raisons financières, ça peut être des raisons de mobilité et tout, là, parce que, ça prend beaucoup d'énergie, je me disais, je trouverai d'autres solutions pour passer le temps, que ce soit agréable. Alors, je ferai de l'horticulture, je ferai du jardinage, peut-être des choses que je n'ai jamais eu le temps de faire dans ma vie, au fond.
Mais exactement, j'ai le goût de vous dire que des fois, tu sais, on peut avoir un plan A, mais ayez et pensez à un plan B, plan C, plan D, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que la vie nous réserve et qu'on ne sera pas pris au dépourvu, finalement.
Oui. Et puis, même, je dirais, c'est drôle parce que je pense, ici, évidemment, on parle beaucoup de mobilité réduite et tout, puis on ne sait jamais qu'est-ce qui peut nous arriver. Alors, effectivement, se dire, ben, il y a plein de solutions aussi, même quand on est à mobilité réduite, quand on vieillit, si un jour on ne peut plus marcher, par exemple, on est pris sur un fauteuil roulant, ben, il y a plein de choses qu'on peut faire encore. Alors, tu sais, c'est de se préparer mentalement. On a plein d'autres moyens aussi dont on va parler après la pause. Alors, vous restez avec moi, José, et puis on se parle tantôt.
À tantôt.
À tantôt.
Écoutez, aime l'été.
Et en passant, j'aimerais remercier Catherine Bourderon à la recherche de cette émission et Mathieu Tessier à la mise en onde et au choix musical. Une belle équipe hein, qui m'entoure aujourd'hui. Toujours un plaisir de travailler ensemble. Alors, je continue avec José Blondin, psychologue au service des aînés, qui nous parlait tout à l'heure des meilleurs moyens pour devenir dépressif quand on vieillit. Alors, évidemment, des choses à ne pas faire. Et on va continuer. Bonjour José, rebonjour. On va continuer avec justement les objectifs. Comme vous dites, à éviter des objectifs irréalisables.
Exact. Il y a si longtemps, on voyait des annonces de personnes retraitées où on voyait un jeune couple de retraités sur un voilier. Il est possible que votre retraite soit très différente selon ce que vous désirez ou vous pouvez avoir. J'avais moi-même un client qui m'avait dit un jour, mais est-ce que j'ai le droit, Mme Blondin, de juste vouloir avoir un chalet dans le fin fond du bois? Ben oui. Mettez-vous des objectifs qui sont teintés de votre réalité et qui vous parlent aussi, qui vont vous faire vibrer.
Oui. Ah ben vous savez, José, vous vous souvenez, là, les pubs Liberté 55, hein, on a bien déchanté.
Voilà. Mais tu sais, imaginez pour ceux qui n'arrivaient pas à la retraite à 55 ans, c'est comme si tu avais comme un sentiment d'avoir manqué quelque chose.
Mais oui, effectivement. Donc, ben oui.
Et un autre aussi qui va un peu dans le même sens, c'est amplifier les événements désagréables. T'sais. Je vous conseillerais en passant à nos auditeurs d'éviter la consommation des nouvelles qui mettent l'accent juste sur ce qui va mal dans le monde, puis on dirait que c'est la fin, puis c'est le bout. Privilégiez des émissions qui vont vous procurer de la richesse, qui vous apportent de nouvelles perspectives. On n'a pas le nommer comme vue et voix en toute objectivité, mais tu sais, encore une fois, que ça va vous apporter quelque chose, puis ça colle et ça résonne aussi au lieu de juste être dans le négatif.
Oui, ça, c'est un peu malheureux parce qu'effectivement, bon, à la base, oui, les nouvelles sont souvent plus négatives que positives. Hein, alors, on nous raconte toujours ce qui ne va pas bien dans le monde. Alors, ça biaise évidemment tout notre regard au monde. Et quand on vieillit, eh bien, effectivement, ça nous laisse à la fois un goût amer et puis c'est déprimant, c'est anxiogène aussi hein, pour les personnes âgées qui ont l'impression toujours que finalement tout est mauvais, il y a du danger partout. Écoutez, ça, c'est vraiment un gros problème, même pour des gens qui sont un petit peu là, qui sont en perte cognitive. Là, ça s'amplifie encore, là, vraiment, cette anxiété, cette menace constante de l'extérieur, là, bon, alors les gens qui s'imaginent, même les gens qui sont un petit peu en trouble cognitif, qui s'imaginent se faire voler, mais parce qu'il y a vraiment toujours, c'est amplifié ça par effectivement, ce qui se véhicule dans les médias.
Exact. Donc, tu sais, faut en prendre, faut en laisser, puis comme je dis, allez plus chercher des nouvelles qui sont positives, des émissions qui vont vous apporter de nouvelles perspectives.
Oui, il y a tellement de belles choses aussi, parallèlement à tout ça. Je veux dire, vraiment, oui, alors il faut se nourrir, effectivement, de belles choses.
Il faut se nourrir, exactement. Tu sais, ouais. Donc, et en même temps, en parallèle, ça nous amène aussi, Il y en a deux autres là que j'aimerais vous parler, qui est le fuir, le plaisir. J'aborde celui-là en premier parce que je trouve que ça va avec un peu ce qu'on vient de parler. Mm. Dans le fond, fuir le plaisir, vous savez, en vieillissant, on a tendance à éloigner le plaisir de nous. On devient tellement plus sérieux. Il y avait une étude d'ailleurs qui est parue avec Robert Dacoum, qui était un psychologue qui a étudié la créativité. La créativité, c'est directement en lien avec notre notion de plaisir. Chantal, selon vous, c'est quoi le pourcentage de créativité que vous pensez qu'on a à l'âge de 5 ans?
Oh, ben j'imagine, écoutez, ben, ça c'est une bonne question, difficile à dire, là, c'est très relatif, hein, parce que effectivement les enfants peuvent être créatifs à souhait, là, ce sont aussi des éponges, mais enfin, quand on est enfant, j'imagine qu'on peut stimuler beaucoup la créativité aussi, hein?
Exactement. En fait, on est autour de 75-80% quand on est à peu près à l'âge de 5 ans.
OK.
À l'âge de 7 ans, notre pourcentage de créativité va chuter. À l'âge de 7 ans, tenez-vous bien, là, ça chute à 25 %. Pourquoi?
Oh, quand même! En fait, j'avais l'impression que c'était... Ah non, je ne voyais pas ça comme ça. J'avais l'impression que la créativité, elle pouvait être stimulée et puis, bon, qu'elle pouvait même augmenter en âge, mais ce n'est pas nécessairement le cas. OK.
Exact. Pourquoi? Parce que, dans le fond, là, c'est des statistiques, c'est des moyennes, OK?
Oui, oui, je comprends.
Mais l'enfant, en allant à l'école, là, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas envoyer nos enfants à l'école, c'est pas ça du tout, mais on les amène dans des cadres, dans une certaine structure aussi, et c'est correct, parce que ça serait sinon l'anarchie, mais on coupe un peu notre créativité.
Oui, dans un sens, vous avez raison, oui, parce qu'au fond, on rentre dans nos petites cases, on va travailler, donc c'est vrai qu'il y a tout un pan qui peut être inexploité en vieillissant, oui, c'est vrai.
Exact. Puis à l'âge de 18 ans, là, on est encore beaucoup plus dans nos cadres. Et là, on chute la créativité à 5 %. Mmh. Donc, on devient avec des cadres plus rigides. Et que ça ne veut pas dire, dans le fond, que la créativité, on ne peut pas la stimuler. Vous l'avez tellement bien mentionné. Et que c'est en même temps, en vieillissant, il faut continuer aussi à trouver cette créativité-là, à faire aussi des choses qui nous plaisent, même si on est en dehors de la boîte. Tu sais, moi, j'adore jouer à la pétanque, ça me procure un immense plaisir, mais même si ça fait pas plaisir aux autres autour de moi, moi, ça me fait plaisir, finalement. Donc, il faut y aller aussi avec, amener cette créativité-là. Ça pourrait même autant être essayer des nouvelles activités, l'art, et ainsi de suite, ce qui va vous faire vibrer, finalement, un peu retrouver votre cœur d'enfant.
Exactement. Et puis, bon, se réjouir quand même de vieillir, hein. Ça, on en a parlé la semaine dernière aussi, que c'est un privilège. Et puis, c'est ça, de toute façon, c'est à nous, finalement, de bien vieillir.
Exact, parce que sinon, quelle autre option qu'on a, finalement, hein? C'est un processus inévitable, on l'a vu la semaine passée. T'sais, la longévité est un combat qu'on va finir par perdre, c'est sûr. Là,
c'est ça.
Donc, allez-y avec des vraies petites satisfactions. Puis, les vraies petites satisfactions, là, nous sont apportées par des petits bonheurs au quotidien. Mm. Donc, ça peut même être des petits défis qu'on va se donner pour, soit justement, là, pour se découvrir de nouvelles facettes aussi, pour surmonter des fois certaines petites difficultés qu'on a, certaines maladies aussi. Donc, ce qui m'amène à vous dire, il faut éviter aussi les... ce que j'appelle affectueusement les « te malou », donc « te malou ». Alors, tu sais, où tu vas
mal. Ah oui, oui.
Donc, évitons ça. On retombe encore dans le négatif. C'est sûr qu'on va avoir des petits bobos en vieillissant. Il y en a malheureusement qui ont des maladies chroniques aussi. Donc, la santé ne sera pas « hop la vie ». Mais allez-y avec des petits défis qui vont vous rendre quand même, tu sais, que hey, ça apporte un petit bonheur. Puis, mettons, j'ai réussi à faire une petite marche de 5-10 minutes. Là,
ouais.
Pour d'autres, ça peut être des plus grands défis aussi. Et il faut accepter justement qu'on a les deuils, que ce soit des deuils cognitifs, des deuils physiques, des deuils d'entourage aussi. Elles viennent avec le processus de vie.
C'est sûr. Puis, on peut toujours rebondir. Alors, il faut quand même, c'est ça, il faut y penser tout le temps, là, rebondir. Mais des petites questions à réfléchir là en terminant?
Oui, en fait, avez-vous un loisir, là, pour les auditeurs, là, posez-vous la question, là. Avez-vous un loisir ou une activité enrichissante que vous pratiquez régulièrement? Quand je dis enrichissante, moi, j'avais un client qui, on le voyait les mercredis matin, puis il s'assoyait dans mon bureau, puis il dit, « Un matin, je suis allé jouer au golf, j'ai un check. » C'est pas une activité enrichissante, là, tu sais, allez-y avec le plaisir.
Ouais, ouais.
Avez-vous déjà réalisé un de vos rêves et que c'est peut-être maintenant, puis ça peut, c'est pas obligé d'avoir le rêve là, de faire le tour du monde, ça peut être des petits rêves. Mettez-vous en mouvement, fixez-vous un échéancier et avez-vous du plaisir dans votre vie? Vous amusez-vous Et si la réponse est non, mais commencez à regarder des activités qui vont vous faire vibrer aussi, que vous allez voir que, et permettez-vous et osez essayer aussi des nouvelles choses.
Bon, ben ça, c'est une bonne suggestion. Vous nous faites aussi, bon, en guise de référence, oui, il y a des lectures.
Oui, j'aime beaucoup Le précieux présent de Spencer Johnson. Le précieux présent, c'est comment, dans le fond, on reste dans le moment présent. Je vous ai dit tantôt, hein, nos satisfactions sont apportées par les petits bonheurs quotidiens, mais c'est dans le moment présent aussi. C'est le passé, c'est derrière nous. Le futur, on ne le connaît pas. Restons connectés. Et on a aussi de Edmond Burke, L'arbre du bonheur et ses racines, donc qui nous amène justement à mettre de l'avant qu'est-ce qui vient nous chercher, nous, en termes de petit bonheur aussi. Et ça nous amène à nous redécouvrir comme personne.
Eh bien, José, je vous laisse conclure avec une citation tirée de votre livre, c'est ça, L'après Inc.
Exact. Oui, imaginez, pour nos auditeurs, que votre vie est un musée que vous allez revisiter en boucle à votre mort. Qu'est-ce que vous voulez ajouter ou changer aujourd'hui dans votre musée?
Bon, bien dit. Alors, on réfléchit là-dessus. Merci beaucoup, Josée. Encore une fois, Josée Blondin, psychologue au service des aînés. Alors, vous nous revenez la semaine prochaine. Bien hâte.
Tout à fait. Merci, Chantal.
Au plaisir et bonne semaine. Au revoir.
Merci, au revoir.
Bye, bye.
ou non.
La chanson « Je penserai à toi » de Zoo Baby.
Merci beaucoup, Mathieu. Alors, voilà. On accueille cette fois Helgi Peximat, qui est un cinéaste québécois qui développe depuis 2005 une approche documentaire intimiste marquée par une grande sensibilité au thème de l'identité et de la différence. Il a réalisé le documentaire « Amour et différence » que vous pouvez voir sur la plateforme Tout.tv notamment. Alors, écoutez, bonjour Helgi.
Bonjour.
Alors, est-ce qu'on prononce bien votre nom?
Oui, c'est parfait, merci.
Parfait. Alors, ben, écoutez, il faut toujours vérifier quand même. Hein. Alors, voilà, oui, comment trouver l'amour et explorer sa sexualité quand on vit avec une différence comme un handicap physique ou une déficience intellectuelle? Alors, c'est ce que vous avez voulu explorer dans ce documentaire. Donc, comment vous vous êtes intéressé à ce sujet qui est quand même un sujet pas évident, assez difficile à traiter quand même?
Oui, c'est ça. Ben, je peux pas parler de ce film-là sans parler de mon film précédent, Champion, dans lequel j'ai suivi mon petit frère autiste, dans son aventure sportive alors qu'il s'entraînait et compétitionnait pour aller aux Jeux mondiaux des Olympiques spéciaux en 2019.
D'accord.
Alors de 2016 à 2020, j'ai vraiment baigné dans le monde de la différence intellectuelle, en plus d'être un grand frère d'une personne autiste, évidemment. Et puis, suite à ça, ben, y a la productrice Pauline Voisard, donc la productrice du film Amour et différence, qui m'a approché pour avec une première thématique, c'était la sexualité chez les personnes autistes. Elle avait vu mon film Champion, elle se disait bon ben pourquoi pas poursuivre sur le monde de l'autisme, mais sous cet angle-là de la sexualité. Puis de fil en aiguille, je suis parti en recherche. Tout ça s'est passé en pleine pandémie, donc j'ai fait beaucoup de rencontres sur Zoom avec la communauté de la différence intellectuelle et même aussi du handicap, c'est venu au fur et à mesure. Et puis plus je parlais aux gens, plus je me rendais compte qu'en fait, la sexualité, mais aussi les relations intimes et même au sens large, là, avec un grand A, l'amour, était vraiment un grand enjeu pour les personnes, pour ces personnes-là. Donc, pas juste chez les personnes autistes, évidemment, mais chez les personnes qui vivent avec une différence. Et tout de suite, j'ai senti vraiment que les gens se disaient isolés, seuls, mais qu'aussi, ils avaient envie d'en parler, qu'ils avaient comme envie de briser le tabou, que tu sais, c'était pas parce que j'ai une différence intellectuelle ou un handicap moteur, finalement, que j'ai pas un cœur et des organes génitaux.
Exact.
C'est ça. J'ai vraiment senti une espèce de cri du cœur, là.
Oui, c'est ça, parce que c'est un enjeu pour tout le monde, ça. On s'entend l'amour et la sexualité et tout, mais quand même, il reste que quand on a une différence, un handicap physique ou une déficience intellectuelle, eh ben là, ça se complique encore davantage, bien sûr. Et puis, bon, c'est ça, vous les avez donc rejoints, ces gens. Ben, d'abord, les réseaux sociaux vous ont aidé aussi dans votre travail, donc, et puis beaucoup de gens vous ont référé d'autres personnes. Alors, vous avez finalement rencontré des gens, puis vous avez finalement, rencontré ces trois personnes qui, tout de suite, vous ont allumé pour vraiment élaborer autour de leur réalité à eux.
Oui, c'est ça. J'avais envie de faire un film avec plusieurs personnages, là, si on veut, entre guillemets, plusieurs personnes, plusieurs parcours de vie, et puis dresser un portrait, si on veut, général de ce à quoi ça peut ressembler, les défis, mais aussi les réussites, là, parce que c'est pas juste les difficultés qu'on rencontre. Des fois, il y a aussi des réussites. Mais donc, ces trois personnes, c'est Marie-Lie qui a 30 ans, Élisane qui a 30 ans, qui, je crois, est une habituée de votre émission aussi, d'ailleurs.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, elle nous en a parlé. On vous a devancé un tout petit peu, mais c'est parce que c'est intéressant, parce que là, on a votre point de vue, on a votre démarche tout particulièrement, mais elle nous a raconté un petit peu, oui, parce qu'elle est participante à ce projet, donc c'est ça. Donc, elle nous a parlé comme quelqu'un qui a été au cœur aussi du projet.
Absolument. Ouais. Absolument. Ouais. Élisane, c'est la personne qui cherche l'amour et qui le cherche encore, à moins que ça ait changé là, dans les dernières semaines.
Oui, je pense qu'elle le cherche encore, mais elle a quand même eu des expériences. Bien sûr, c'est quand même quelqu'un qui est assez quand même autonome, malgré tout, là, qui est prof d'université. Donc, c'est sûr que... Mais même si, a priori, c'est quelqu'un qui devrait peut-être pas avoir autant de difficultés, mais ça reste que c'est pas évident, oui, effectivement.
Non, c'est pas évident. Puis c'est sûr que même pour une petite équipe de tournage comme la nôtre, juste la suivre pendant 2 jours, on se rend compte de toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer au quotidien, ne serait-ce qu'avec un chien Mira ou des fois en chaise roulante ou juste dont la manière dont les gens la regardent, la marginalisent. Alors que, effectivement, comme vous venez de le dire, elle a un doctorat en sciences politiques internationales et elle enseigne des cours et elle est probablement plus éduquée, plus intelligente que la plupart des gens.
Alors,
c'est très frustrant. C'est très frustrant,
c'est
franchement.
Ça. Et cette frustration-là, ben, elle le ressent aussi quand elle rencontre des gens, d'éventuels peut-être partenaires ou enfin quand elle fait des rencontres amoureuses, ben, il existe toujours, il y a toujours ce préjugé.
Il y a toujours ce préjugé qui est très difficile. On parle d'amour, mais on pourrait même parler juste de l'amitié. C'est déjà difficile, je trouve, pour des personnes différentes intellectuellement ou avec un handicap, d'avoir des amitiés avec des personnes qui n'ont pas de différence. Alors, imaginez l'amour. C'est vraiment une étape de plus.
Ouais.
Je sais pas pourquoi on en est encore là en tant que société. J'ai l'impression que c'est la prochaine grande étape d'inclusion qu'il nous faut franchir. Mais on a tous des préjugés, évidemment. Il faut composer avec.
Il y a toujours encore ce tabou. Et puis, il y a François Rochon, finalement, qui, lui, est atteint de sclérose en plaques. Ça a été un enjeu de toute sa vie, finalement, tenter de trouver l'amour, de trouver une compagne, d'avoir de la sexualité. Mais évidemment, il a... sa maladie a commencé bien jeune. Alors, finalement, la maladie s'est développée assez rapidement, de sorte que, évidemment, ça nuisait à ses relations. Alors, il en a souffert énormément.
Il en a souffert énormément et j'étais content de rencontrer François aussi parce que je cherchais ce personnage-là qui peut parler au grand public, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas nécessairement de différence intellectuelle ou de handicap moteur. La sclérose en plaques, ça peut frapper n'importe qui, comme un accident d'ailleurs peut frapper n'importe qui. Mais je pense que dans les échos que j'ai eus du film, François a parlé à beaucoup de gens qui ne vivent pas avec de différence. Et voir François qui, à 20 ans, grimpait des montagnes, faisait du sport et qui, tout à coup, du jour au lendemain, n'est plus capable d'avoir d'érection. Lui, c'était ça son premier symptôme de sa sclérose en plaques. Et là, on le découvre dans le film 35 ans plus tard, avec presque juste le haut de son corps qui fonctionne encore. Il en a arraché au point tel qu'il a décidé de créer une application de rencontre pour les personnes qui vivent avec une différence, un lieu où t'as pas de gêne à dire « j'ai tel handicap, j'ai telle différence », c'est compris qu'on va là, puis qu'on l'accepte déjà.
Oui, c'est ça. Donc, est-ce que vous trouvez que ça a été un privilège pour vous d'approcher ces gens-là, de rentrer dans leur intimité à ce point-là? Est-ce que ces gens-là se livrent? Parce qu'il y a d'autres personnes qui vont témoigner, qui témoignent dans ce documentaire et qui le font parfois, certains, avec candeur, parce qu'évidemment, chacun a son handicap. Alors, bien sûr, il y en a qui ont peut-être un âge mental beaucoup plus jeune, alors qui parlent de sexualité avec, c'est ça, leur candeur pratiquement d'enfant même, oui.
Exactement, c'est ça. J'ai comme voulu donner, moi je l'ai appelé le personnage choral, là j'ai voulu donner un aperçu de ce que ça peut représenter, les grandes communautés de la différence intellectuelle et du handicap physique, mais les gens se sont livrés vraiment à cœur ouvert, j'ai pas eu à leur tordre le bras, ça a été même difficile parfois, même déchirant de choisir parce que il y avait tellement de gens qui avaient envie de témoigner, qui avaient envie de dire « on existe ». Et on a envie d'aimer et d'être aimé. Alors, ça a été un grand privilège pour moi qui ne vit pas avec de différence intellectuelle ou de handicap physique non plus, de me faire livrer ces histoires-là et toujours dans le plus grand respect de dire « Écoute, est-ce que tu me fais confiance pour que j'aille livrer ça? » Et je trouve que vraiment, c'est un film qui a réussi, en tout cas, les échos que j'en ai, comme je disais tout à l'heure, c'est que ça a beaucoup touché les gens qui n'avaient aucune idée de ce concept-là, même qu'en fait, ils n'avaient même jamais imaginé qu'une personne autiste puisse vouloir avoir une relation et une relation sexuelle. Et même chose chez les personnes avec des handicaps physiques, c'était un tabou.
Et dites-moi, c'est ça, Helgi, en fait, vous n'avez pas nécessairement abordé un sujet qui a peut-être été déjà abordé, en fait, celui des travailleuses du sexe qui parfois doivent, évidemment, rendre service à certaines personnes. Vous n'êtes pas allé là, Vous n'avez pas abordé ce sujet-là?
Non, parce que c'est ça, j'avais envie de... Ben, c'est ça, écoutez, 52 minutes, ça va
tellement
vite.
C'est un choix, oui.
C'est ça, c'est un choix. Mais par contre, beaucoup m'en ont parlé, puis j'ai eu à parler aussi avec des travailleuses du sexe en cours de route. Ben, moi, ce que je dirais, c'est qu'à un moment donné, quand il a fallu que je fasse des choix, j'ai décidé de donner la parole aux personnes qui ont une différence, aux personnes qui ont un handicap. J'ai pas été voir des sexologues, j'ai pas été voir des spécialistes, j'ai pas été voir non plus des travailleurs ou des travailleuses du sexe, parce que je voulais vraiment donner la parole à cet autre côté là du documentaire, donc
De l'intime. Et puis, ouais, ça c'est bien, c'est intéressant, c'est ça, cet aspect-là, puis ça ressort nettement. Et puis bon, pour revenir à François justement, qui à la base était un homme, c'est un très 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 bel homme, c'est ça aussi qui est déchirant. Et puis bon, évidemment, bon, il y a François qui quand même nous dit ouvertement le choix qu'il a fait pour son avenir, là, étant donné qu'il vit avec de grandes, grandes douleurs, que c'est devenu intenable. Alors, il a pris une décision assez grave, ouais, c'est ça.
Oui, c'est ça. Il a demandé l'aide médicale à mourir. C'est un choix avec lequel il me l'a annoncé dès le départ. Alors, j'avais comme une espèce de pression, si on veut, dans le temps. J'avais vraiment envie de finir le film avant qu'il parte, un peu comme une forme de testament. Mais ça a toujours été ça aussi pour nous, le deal. Là, c'était, je te donne mon histoire, mais raconte-la bien, raconte-la avec respect, ça restera après
touchant.
Moi.
Ouais, c'est très touchant. Ben oui, effectivement, parce qu'on sent qu'il vous a fait confiance, c'est sûr. Et puis, bon, alors ça devrait se faire quand même assez rapidement, là, en septembre. Alors, vous aviez cette pression, effectivement, pour que tout soit fini, finalisé. Et puis, en plus, ça a été présenté à la télé c'est la télé de Radio-Canada, hein, c'est ça?
C'est ça, bon. Tout.tv. Et ça va être aussi sur Ami à partir de septembre.
Bon, alors c'est Ami merveilleux. Bon, alors voilà. Et puis bon, alors c'est ça. Puis on voit le parcours, comme on en a peut-être moins parlé, de Marie-Lee Hood, qui, elle, s'est fait un copain tout à fait normal. Et puis il explique lui-même aussi comment il a dû affronter les préjugés de ses propres amis aussi, hein, qui se demandaient bien ce qu'il faisait avec une fille qui avait une légère déficience intellectuelle quand même, alors que lui, tout à fait normal. Bon. Alors, c'est vraiment...
Et ça, je dois dire, ça fait depuis 2016 que je travaille dans ce milieu-là. C'est la première fois que je vois un couple mixte, si on veut, là. Une personne qui vit avec une déficience et une autre personne qui n'a pas de déficience. Et je trouve ça vraiment merveilleux parce que ça donne l'espoir qu'un jour, on pourra briser ce tabou-là, la barrière. Si on tombe en amour avec quelqu'un qui a une différence, ben go, on y va.
Bon, ben écoutez, félicitations pour ce documentaire « Amour et différence ». Vous avez toujours été curieux de nature, attentif à la poésie du quotidien, le désir de découvrir des univers inusités ou méconnus. Alors vraiment, à découvrir aussi, vous avez quand même plusieurs courts et moyens métrages derrière la cravate, comme on dit, et puis vous avez été présenté dans différents festivals. Bref, ben, est-ce qu'on peut imaginer, oui, que ce documentaire sera sans doute, fera un petit peu, voyagera, j'imagine?
Je l'espère. Franchement, je l'espère, oui.
Ben oui, je vous le souhaite, bien entendu. Alors, c'est ça. Donc, vous avez fait plein de choses, Elgui, et puis vraiment, c'est un parcours intéressant que le vôtre. Et puis, votre dernier, long-métrage champion, là, qui parle de votre petit frère. Alors, vraiment très sympathique. Je vous remercie et je vous quitte
Merci
à l'instant.
Beaucoup.
Et je souhaite à tous nos auditeurs une bonne fin de semaine. On se retrouve lundi matin, enfin lundi midi, entre midi et 13h. Voilà, aime l'été. Au revoir, merci à tous.